Bonjour à tout le monde.
Donc nous reprenons cette question de, enfin la présentation de cette classe d'enzymes extrêmement importante, hein, notamment pour la fonction qu'elles exercent, hein, élément clé de la biosynthèse de l'ADN. Alors j'ai juste deux premières diapositives que vous avez vues, enfin pour ceux qui étaient là la semaine dernière, qui rappellent où on en est, et ensuite je vous parlerai des nouveautés, je dirais à partir essentiellement des années à peu près 2010, puisque depuis les années 60, découverte de la première ribonucléotide réductase, tout est dans ces deux diapositives. Alors, je le rappelle, je ne vais pas y passer trop de temps parce qu'on a entendu ça la semaine dernière, mais c'est pour redire où on en est au moment de la nouvelle histoire que je vous raconte. Donc, les ribonucléotides réductases, c'est cette enzyme absolument essentielle chez tous les organismes vivants qui transforment les ribonucléotides en désoxyribonucléotides, hein, réduisant cette liaison carbone-OH en liaison carbone-H qui fait la différence entre les ribo et les désoxyribonucléotides. Quel que soit le système, et je vous ai déjà démontré qu'il était varié puisque je vous ai présenté trois classes, la classe 1, la classe 2, la classe 3, tous ces systèmes fonctionnent par le même mécanisme qui consiste à créer, par différents mécanismes, c'est là que ça diffère, un radical sur une cystéine qui est en fait positionné ici, proche du substrat qui est le ribonucléotide, de sorte que vous puissiez déclencher un arrachement d'atomes d'hydrogène ici, sur l'hydrogène en 3'. Et c'est la clé de l'affaire parce que c'est sous cette forme radicalisée que le substrat peut subir une réduction à 3 électrons, puisque vous avez compris qu'ici ça commence par une oxydation à 1 électron, et que le bilan de la réaction est une réduction à 2 électrons. Mais la clé, c'est cet arrachement radicalaire d'atomes d'hydrogène. Je ne rentre pas dans le détail de ce mécanisme, mais il est résumé ici. Et ces trois électrons, ils viennent d'une part de cette cystéine qui redonne un atome d'hydrogène en position 3'. Donc cet arrachement est transitoire. C'est le même H qui est passé sur la cystéine qui revient en position 3'. Et les deux électrons, ils viennent, ce n'est pas indiqué ici, mais de l'autre côté, vous avez deux cystéines, un dithiol qui participe au don de un proton et deux électrons. Voilà. Deuxième information, c'est que quel que soit le mécanisme de formation du radical cystéinyl par différents mécanismes. Alors, ils sont résumés ici. Dans la classe 1, c'est un binucléaire de fer dans une protéine R2 et un radical tyrosinyl sur une protéine qui, par un transfert de radical à très longue distance, je l'ai évoqué, amène ce radical sur une tyrosine de la protéine R1, la deuxième protéine qui porte le substrat. Et vous voyez, cette tyrosine 731, ici, elle est là, elle est positionnée parfaitement bien pour arracher un atome d'hydrogène sur la cystéine. Donc c'est le mécanisme qui est présenté ici. La classe 1, elle fait un radical tyrosinyl pour arracher un atome sur la fameuse cystéine qui va agir sur le substrat. Donc là, vous voyez, un effet de proximité très proche, puisque c'est les transferts d'atomes d'hydrogène, ça se fait à courte distance. La classe 2, je le rappelle, c'est un cofacteur beaucoup plus complexe, une adénosyl-cobalamine qui crée ce radical 5'-déoxyadénosyl dont les structures montrent qu'elles sont, qui est ici, positionnée exactement au même endroit que la tyrosine. Et c'est ce radical-là qui est créé ici, qui va arracher l'atome d'hydrogène sur la cystéine. Dernier mécanisme, la classe 3, c'est un cluster fer-soufre qui fixe la S-adénosylméthionine et qui crée ce radical-là, il n'est pas présenté ici, mais qui conduit à arracher un atome d'hydrogène sur une glycine, et cette glycine, elle est là. Donc là aussi, bien positionnée pour arracher un atome. Donc vous voyez, c'est cette glycine ici pour arracher un atome d'hydrogène sur la cystéine. Et en fait, malgré la très très grande diversité des mécanismes et finalement des radicaux, hein, vous voyez, radicaux tyrosinyl, radicaux 5' déoxyadénosyl, radicaux glycinyl, tout est organisé structurellement pour taper sur cette cystéine, qui est très conservée, vous voyez, et qui est et qui prend, avec les deux cystéines de l'autre côté qui font la réduction à deux électrons, un sandwich où vient au milieu se placer le substrat. Voilà, tout est comme ça, c'est assez extraordinaire. Et donc jusqu'à et dernière chose, puisque on va rester maintenant avec la classe 1, on ne parlera plus de la classe 2 et la classe 3 qui au fond depuis voilà, les années 80-90 n'a pas connu de véritables changements, de véritables nouveautés. Tout s'est passé au niveau de la classe 1 et c'est de ça dont je vais parler. Et donc je vous rappelle juste le mécanisme de formation de ce radical tyrosinyl qui déclenche tout, il vient d'une activation de l'oxygène moléculaire par des ions ferreux. Lorsque la apoprotéine, qui évidemment n'a pas de radical fixe du fer 2, on a cet état ferreux qui est en capacité de réagir avec l'oxygène moléculaire pour donner une espèce à haut degré d'oxydation du fer, hein, vous voyez, fer 4, qui a la possibilité, qui a un pouvoir oxydant suffisant pour arracher cet atome d'hydrogène, oxyder cette tyrosine en radical. Voilà. Eh bien, ce dont je vais vous parler, c'est qu'à partir de 2010, et on va tout classer ça dans les 1, la classe 1, on va voir défiler toute une série de nouveaux systèmes qui possède, vous allez le voir, des variations par rapport à la stratégie bimétallique de fer et radicale. Et on va voir, je ne vais pas rentrer. Et alors, c'est l'analyse des génomes hein, qui conduit à tout un tas d'observations. Donc, la classe 1A, hein, je rappelle, c'est donc ce système que j'ai décrit, eucaryotes et certaines bactéries comme coli. Très peu de bactéries, au fond, hein, finalement. Et puis, il y a tout un tas d'autres bactéries qu'on va voir. Vous voyez réapparaître coli, c'est-à-dire qu'on va aussi observer qu'un organisme, un micro-organisme donné peut avoir plusieurs classes de ribonucléotides réductases. D'ailleurs, Escherichia coli, par exemple, en a 3, puisqu'on va s'apercevoir que non seulement elle a la classe 1A, mais elle a aussi la classe 3, ça on l'a dit, puisqu'elle pousse aussi en anaérobiose cette bactérie, mais on va s'apercevoir qu'elle a aussi cette classe 1B dont je vais vous parler. En fait, pendant longtemps, on a su que certaines bactéries poussaient non pas en présence de fer, mais en présence de manganèse, et que l'activité ribonucléotide réductase dépendait de la présence de manganèse dans le milieu de culture. Associé à l'analyse de génome, évidemment, ceux qui ont travaillé sur ce système se sont aperçus que, par exemple, chez Escherichia coli, qui peut, dans certaines conditions, utiliser du manganèse pour pousser, contient deux gènes. Alors, vous vous souvenez que la classe 1A, on parle de NRDA, NRDB, donc deux gènes qui ont été appelés NRDE, NRDF, donc je parle de la et qui ont des homologies avec les protéines NRDA, NRDB de la classe 1A. Il s'avère que ces gènes ont été exprimés et il a été parfaitement démontré qu'elles copurifiaient, donc on avait les deux sous-unités de la ribonucléotide réductase comme dans la classe 1, hein, la protéine R1 et la protéine R2. La seule différence, c'était qu'on avait à côté du radical tyrosinyl, parce que cette enzyme est aussi à base de radical tyrosinyl, avait non pas un binucléaire de fer, mais un binucléaire de manganèse. Et la structure a été obtenue hein, en 2010 Et vous reconnaissez cette forme assez classique de la sous-unité métallique. Hein. Vous voyez ces deux points verts ici, ce sont les atomes de manganèse très enfouis au sein de la protéine. Donc on reconnaît cette structure, elle est assez homologue à la classe 1A. Donc elle est bien définie comme classe 1, c'est un binucléaire métallique, sauf que c'est du manganèse, et elle contient un radical tyrosinyl qui est absolument essentiel à l'activité. Et quand vous regardez donc la structure du site à manganèse, et si on la compare à la classe 1A, on voit d'énormes homologies, si ce n'est que c'est du manganèse à la place du fer, c'est-à-dire qu'on reconnaît les ligands histidine, et puis il y a toute une série de ligands carboxylates, hein, glutamate, aspartate. Enfin, voilà, on retrouve les mêmes choses, et évidemment, on peut se demander comment et c'est une question qui existe encore, comment la nature, avec une telle conservation d'acides aminés, contrôle l'entrée d'un ion métallique plutôt qu'un autre. Et comme dans la classe 1A, la tyrosine essentielle qui va être radicalisée, qui est radicalisée dans sa forme active, est positionnée à peu près au même endroit. Et donc on imagine bien que c'est ce cluster métallique qui va être responsable en présence d'oxygène de créer ce radical. Le problème, c'est que quand vous partez de manganèse 2, vous souvenez tout à l'heure, fer 2, plus oxygène, et on crée le radical. Quand on part de manganèse 2 ici, il ne se passe rien avec de l'oxygène. Donc pendant quelque temps, il s'est posé la question de la formation de ce radical. La deuxième information, c'est qu'à côté de ces deux gènes, de ribonucléotide réductase, il y a un troisième gène et qui finalement a été appelé NRD, mais I, parce que en effet c'est un gène absolument essentiel à l'activité ribonucléotide réductase qui n'était pas impliqué dans la classe 1A, donc c'est aussi une autre caractéristique de cette nouvelle classe 1B. Et il s'avère que cette petite protéine ici est une flavodoxine qui est absolument essentielle à l'activité enzymatique. Alors, une flavodoxine, c'est une petite molécule, et il s'avère que en 2010, la structure a été obtenue. C'est une petite protéine qui contient en surface, vous voyez, alors un cofacteur dont j'ai parlé souvent, une flavine, ici c'est une FMN, flavine mononucléotide, qui est absolument essentiel à l'activité. Ça, c'est la première information. La deuxième, c'est que NRDI forme un complexe avec NRDF, c'est-à-dire avec NRDF, hein, c'est aussi R2, c'est la protéine qui contient le manganèse. Vous voyez, c'était publié dans Science en 2010, a été publiée la structure aux rayons X du complexe NRDI-NRDF, où l'on voit ici en vert la flavodoxine et on voit le manganèse ici au cœur de la protéine NRDF. Et ceci indique clairement. Alors, effectivement, le complexe est stable, hein, puisqu'il est cristallisé et on en a la structure, mais assez clairement, cette flavodoxine, ici, elle participe à des transferts d'électrons, les distances ici sont quand même très grandes et évidemment, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de transfert d'électrons direct entre la flavine et le site métallique. Alors comment ça marche? Et en fait, comme je l'ai dit, hein, sans NRDI, il ne se passe rien. Hein, la forme manganèse divalent, hein, manganèse 2 oxygène, ça ne marche pas. Quand il y a zéro NRDI, il n'y a pas d'activité. Hein, ici, on met en ordonnée soit l'activité spécifique en unité par milligramme de protéines, soit la quantité de radical. Évidemment, les deux choses sont corrélées, puisque vous savez qu'il faut absolument un radical pour qu'il y ait activité. Et on voit que lorsqu'on augmente la quantité de NRDI on augmente. Alors bon, ça plateaute à peu près à un équivalent, c'est ce qu'on attend compte tenu du complexe qu'on a vu. Eh bien, donc c'est vraiment un cofacteur absolument important et il faut de l'oxygène. Et donc là, il reste encore des discussions hein, sur comment ça fonctionne. Et là, on tombe sur une hypothèse qui est quand même extrêmement rare en enzymologie. Je ne me souviens pas vraiment de beaucoup d'équivalents de cet ordre. Et en fait, l'hypothèse, c'est que la flavine à l'état réduit active l'oxygène moléculaire. Alors, sous quelle forme ? Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Est-ce que c'est un superoxyde ? Est-ce que c'est un peroxyde, plus ou moins protoné ? Mais si c'est un... Et donc, que cette espèce radicalaire ou oxydante qui vient de l'oxygène moléculaire... Alors, vous savez, hein, l'oxygène, c'est un oxydant à 4 électrons. Et néanmoins, quand vous regardez le bilan de la réaction, ce qui a été établi, c'est que vous passez d'un état manganèse 2, manganèse 2, tyrosine, à un état manganèse 3, manganèse 4, radical. D'accord ? Ici, ce qui est proposé, si vous voulez, c'est que cet oxydant, alors si c'est de l'eau oxygénée plus ou moins activée, on peut faire une oxydation à 2 électrons, oxydant chacun des manganèses et un autre, il faut deux autres et il faut un autre équivalent. Alors, excusez-moi, là, c'est manganèse 3, oui, c'est ça. Et il faut un troisième équivalent oxydant pour créer un état manganèse 4 qui est lui responsable, comme dans le cas du fer, une espèce à haut degré d'oxydation pour oxyder la tyrosine en radical. Donc ici, on a une oxydation à 3 électrons. Il s'avère que le radical superoxyde est un oxydant à 3 électrons. Il pourrait faire le job. Donc il y a des discussions pour savoir si c'est du superoxyde, de l'eau oxygénée, si certains acides aminés participent à comme des tryptophanes, à ces transferts d'équivalents oxydants. Donc c'est assez complexe, mais néanmoins, donc voilà, une chose intéressante, c'est que dans cet article de Science en 2010, il a été obtenu une structure du complexe NRDI-NRDF, structure du complexe obtenue en trempant des cristaux de ce complexe dans une solution de dithionite en aérobiose, donc en présence d'oxygène, et avec une flavine probablement réduite par le dithionite. Et alors que dans la structure initiale, vous voyez, vous avez la flavine et le manganèse, donc il y a une très longue distance. Néanmoins, ce qui était clair, c'est qu'il y avait une suite de molécules d'eau. Vous voyez, la lysine 260 ici, elle est là. Donc il y avait toute une série, il y avait tout un cluster de molécules d'eau qui, d'une certaine façon, connectaient le site à manganèse du site flavine. Et puis, dans ces conditions que je viens d'indiquer, une nouvelle structure fait apparaître au milieu, là, à peu près par ici, une molécule diatomique, donc entre le manganèse et la flavine. Là aussi, c'est juste une densité. Ce qui a été proposé, c'est que la longueur de... Donc ça fait penser évidemment à une molécule qui vient de l'oxygène moléculaire. Elle est, d'après les auteurs, trop longue pour être de l'oxygène moléculaire, trop courte pour être un peroxyde. Et donc, il a été proposé que ce soit un superoxyde qui soit là, ce qui est assez extraordinaire, évidemment, compte tenu de la réactivité de ces espèces. Mais disons que ceci a validé, d'une certaine façon, un mécanisme assez troublant de transfert, finalement, à longue distance, d'une espèce activée de l'oxygène qui irait ici du site flavine où il serait réduit en superoxyde ou peroxyde et ensuite se déplacerait pour venir sur le site de manganèse où il effectuerait son oxydation. Vous voyez, c'est quand même des choses assez, assez troublantes. Voilà, donc la classe 1B, c'est ça, c'est-à-dire une petite modification, enfin une sérieuse modification, je dirais, puisqu'il n'y a plus de fer, mais il y a du manganèse, mais qu'on arrive à des états intermédiaires de type au degré d'oxydation du métal qui crée un radical, et c'est le radical à nouveau qui déclenche tout le transfert de radicaux pour créer la cystéine hein, sur l'autre protéine et puis faire la réaction sur le substrat. Et puis il y a ici un mécanisme un peu particulier avec l'intervention absolument nécessaire d'une flavodoxine, ce qui n'est pas le cas dans la classe 1A. Voilà. On avance à peu près à la même époque, peut-être un peu plus tôt. Cela dit, ça a pris la nomenclature C après le B, parce qu'il a fallu plus de temps pour comprendre si on avait vraiment affaire à une ribonucléotide réductase. Dans certains micro-organismes, notamment des pathogènes, Chlamydia trachomatis, qui est un parasite, Mycobacterium tuberculosis, dont vous savez que c'est une bactérie responsable de la tuberculose, eh bien, cette bactérie pousse avec une autre classe de ribonucléotide réductase. Et là, l'analyse des génomes montre quelque chose d'assez incroyable, c'est que, alors que, vous voyez en bleu, tous les ligands du métal sont conservés, à peu près, glutamate à la place d'aspartate, c'est à peu près la même chose, eh bien, il n'y a plus de tyrosine, mais il y a une phénylalanine à la place de cette tyrosine. Et pourtant, il y a bien une protéine R2, c'est celle-là, il y a une protéine R1 où il y a une cystéine qui doit être radicalisée, et pourtant, il n'y a pas de possibilité de créer un radical à proximité et du fer qui transférerait ensuite ce radical sur une très longue distance, etc. Et la protéine a été cristallisée, vous la voyez ici, c'est à nouveau la même forme, avec un binucléaire, ici, de fer, dans ce cas-là. Et voilà le cycle, le site métallique, à nouveau, rien de particulier, des histidines, des aspartates, des glutamates pour fixer le fer, et à proximité, ici, vraiment une phénylalanine, il n'y a pas de tyrosine. Et pourtant, ça marche. Alors, ceci, quand ça a été cristallisé, c'était du fer qu'il y avait ici. En fait, cette forme n'était pas... Ça a mis beaucoup de temps parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur quel est le métal qui est présent. Et là, on a quelque chose qui a mis beaucoup de temps à être établi. En fait, ce n'est ni à fer ni en manganèse, mais c'est les deux. C'est un complexe mixte fer-manganèse. Et par toute une série de méthodes, et en particulier ici, vous voyez l'activité en fonction des taux de fer et de manganèse. Vous voyez ici, on a 0 manganèse de fer, 1,1, 2 manganèse 0 fer, et en fait, le maximum d'activité est pour un rapport 1,1 de fer et de manganèse. Et de fait, d'autres structures plus tard ont montré, en effet, avec le même type de coordination, mais c'est un complexe manganèse-fer. De sorte que dans ce système, il n'y a pas de radical organique, mais on crée une espèce oxydante par la réaction du site manganèse 2 fer 2 avec de l'oxygène pour donner, après une oxydation à 3 électrons, un cluster fer 3 manganèse 4, comme d'habitude. Sauf que ce manganèse 4 ne peut pas oxyder une tyrosine puisqu'il n'y en a pas. Il n'oxyde évidemment pas une phénylalanine, c'est un noyau benzénique. Et donc, l'hypothèse qui est proposée, c'est que lorsque ce site R2 s'associe avec la protéine R1 où doit être radicalisée cette cystéine, à nouveau pour faire la réduction de substrat, eh bien, c'est le manganèse 4 qui fait le boulot. Et donc la question qui réside encore, c'est comment un manganèse 4 sur une protéine oxyde une cystéine à un électron qui est à 30 ou 40 angstroms de distance. Ça, c'est assez mystérieux, mais en tout cas, aujourd'hui, l'hypothèse de travail, c'est que vous partez d'un manganèse 2, fer 2, vous arrivez à un manganèse 4, fer 3, et voilà, la question, c'est comment cet équivalent oxydant est transféré, alors probablement, à travers des chaînes de transfert d'électrons couplées à des transferts de protons pour aller arracher un atome d'hydrogène à très longue distance. Mais là, vous voyez, ce ne sont pas des arrachements d'atomes d'hydrogène consécutifs, puisqu'un manganèse 4, ça peut accepter un électron, mais pas arracher un atome d'hydrogène. Voilà, donc, troisième configuration, si vous voulez. Radical fer, radical manganèse, et ici, pas de radical, mais un manganèse 4, fer 3, ce qui veut dire que l'équivalent oxydant absolument nécessaire qui est localisé sur la tyrosine dans la classe 1A et 1B, cet équivalent oxydant, il est bien là, mais il est localisé sur le métal. C'est le manganèse 4. On continue. Bon, ça, c'est juste une étape intermédiaire pour rappeler les choses. On est toujours dans la classe 1, à savoir que la classe 1A, c'est tous les eucaryotes, c'est-à-dire nous-mêmes, hein, nous, les humains, c'est classe 1A, tous les eucaryotes. Il y a très peu de prokaryotes, en fait, même si ça a été la première ribonucléotide réductase découverte dans Escherichia coli. On a vu les classes 2 et 3, et donc les classes 1B et 1C ont cette configuration, mais à nouveau, toujours pour créer ce radical cystéique. Et à nouveau, pour en finir avec ce classe 1A et 1B et 1C, je l'ai déjà dit, donc ici, activation de l'oxygène moléculaire par du fer. Ici, activation de l'oxygène moléculaire par une flavodoxine. Et ici, activation de l'oxygène moléculaire par un complexe mixte hétérodinucléaire manganèse-fer. Classe 1D. Vous voyez, on continue. Ça explose. On se demande pourquoi, évidemment... tant de ribonucléotide réductase. Donc ça, c'est un... c'est une protéine, donc la classe 1D, qui a été découverte dans le... Donc c'est très proche de la classe 1B. Alors, ça a été, par exemple, étudié dans cette bactérie, hein, Flavobacterium johnsoniae. Pourquoi c'est très proche de la classe 1B? On aurait pu le mettre dans la classe 1B, puisque c'est un site binucléaire de manganèse. Hein. Vous vous souvenez, classe 1B, c'est le cas manganèse et une tyrosine. Eh bien, cette classe 1D, en effet... elle a un site manganèse. Mais pourquoi on en crée une seconde classe? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de NRDI dans l'opéron. Alors, il pourrait y avoir une flavodoxine ailleurs qui est absolument essentielle, mais ça n'a pas été trouvé pour le moment, une flavodoxine spécifique. Donc, d'où vient l'activation du manganèse? Et dans cette protéine, il y a bien une tyrosine exactement au même endroit. Par contre, pour l'activer, on a quand même montré qu'il fallait quelque chose qui ressemble à du superoxyde, puisque in vitro, en traitant la protéine avec de l'hydroquinone qui, en présence d'oxygène, crée des superoxydes, c'est ce qu'on voit ici, hein, vous voyez l'activité en fonction de la quantité d'hydroquinone, c'est de la naphtoquinone, on voit l'activité qui augmente. Et on voit que c'est manganèse dépendant, puisque l'activité augmente avec le manganèse. Donc, on a l'impression qu'on est bien dans une classe 1B, mais il n'y a pas, il n'y a, il n'y a pas de NRDI, mais probablement il y a une flavodoxine quelque part ou un générateur de radicaux superoxydes. Mais alors, la chose la plus troublante, c'est que quand l'enzyme est active, la tyrosine qui est à côté n'est jamais radicalisée. Alors ça, c'est quand même assez fascinant. C'est-à-dire, il y a bien une tyrosine, mais elle n'est pas radicalisée. Dans l'état actif, il n'y a pas de radical tyrosiné. Et il s'avère que là aussi, les auteurs ont pu démontrer, vous voyez, là on est beaucoup plus récent, hein, ont pu démontrer qu'on était dans un cas de système manganèse, manganèse 3, manganèse 4, et ça, ça a été montré par tout un tas de techniques de spectroscopie, et en particulier de spectroscopie RPE, où, vous voyez ici, si vous avez un système manganèse 2, deux complexes de manganèse 2 qui sont très faiblement couplés magnétiquement, ce qui donne ce type de cluster, si vous n'avez ni oxygène ni hydroquinone, ou de l'hydroquinone tout seul sans oxygène, ou de l'oxygène sans hydroquinone, c'est des manganèse 2. Dès lors que vous ajoutez les deux, à ce moment-là, vous avez une structure hyper fine qui fit parfaitement bien avec un cluster manganèse 4, manganèse 3 de spin and me, couplage avec le spin nucléaire du manganèse 55. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais il est clair que cette espèce active est de l'ordre de manganèse 3, manganèse 4. Et donc, c'est assez évidemment troublant que donc ce manganèse 4 qui est là, qui porte un équivalent oxydant, n'oxyde pas la tyrosine. Comment ça se fait? La structure de cette classe 1D a été obtenue. Et ici, vous avez la comparaison de la classe 1D avec la classe 1A. À nouveau, du point de vue de l'organisation générale, des systèmes, enfin des protéines, c'est assez semblable. À nouveau, le site binucléaire à l'intérieur de la protéine, c'est bien un système manganèse-manganèse avec le même type d'environnement de coordination, des glutamates, des aspartates et les deux histidines. Et alors pourquoi alors que la tyrosine est là, hein, vous la voyez ici, elle n'est pas loin, pourquoi ça ne peut pas créer de radical à cet endroit alors que le manganèse 3, manganèse 4 a la possibilité de le faire sur le plan des potentiels redox et du pouvoir oxydant? Eh bien, regardez ces comparaisons de structures. Donc on a la classe 1A, la classe 1B, la classe 1C. Alors je mets de côté la classe 1C parce que la question de créer un radical sur une tyrosine ne se pose pas, puisque à la place de la tyrosine, il y a une phénylalanine. D'accord? Eh bien, peut-être la différence la plus importante entre ces structures, c'est que dans les classes 1A et 1B, vous avez une isoleucine ici, et vous avez qui pousse la tyrosine, vous voyez, en direction du binucléaire, et vous avez un ligand aspartate qui ponte, qui fait une liaison hydrogène, qui est ligand du métal, qui fait une liaison hydrogène avec cette tyrosine. De sorte que ces tyrosines dans la classe 1A et dans la classe B sont orientées vers le site métallique qui, de fait, dans ce cas-là, trouve la tyrosine à proximité pour l'oxyder à un électron. Et la différence qu'on observe dans la classe 1D, c'est que cette tyrosine est au contraire orientée, s'éloigne de ce cluster à manganèse, notamment en raison de cette tréonine, qui est en liaison hydrogène, et donc qui est à la place de l'isoleucine, ici, qui est en liaison hydrogène avec cette tyrosine. Bon. Vous voyez, c'est des modifications subtiles, extrêmement fines, mais ça suffit, semble-t-il. Enfin, c'est toute la beauté de la gestion des conformations par les protéines, hein, mais ça peut être surprenant, parce que là, on est en train de parler quand même d'espèces qui sont quand même à haut degré d'oxydation, qui sont pas d'une stabilité, enfin, qui ont envie de dégager ce pouvoir oxydant quelque part. Il suffit de ce petit mouvement, semble-t-il, hein, d'une tyrosine qui est plutôt orientée ainsi, et une tyrosine orientée, au contraire, en s'éloignant du cluster en manganèse, pour changer considérablement le devenir de cet équivalent oxydant. De sorte que, ici, pour conclure, on se retrouve avec des systèmes où le pouvoir oxydant, l'équivalent oxydant à un électron, fer 4 ou manganèse 4 dans 1B, fer 4 dans 1A, manganèse 4 dans 1B, ce pouvoir oxydant, enfin cet équivalent oxydant se transfère sur une tyrosine, alors que dans ce cas-là, il ne se transfère pas dans la tyrosine. Ce qui fait que, à la fin, cette classe 1D, c'est un mélange de classe 1A, 1B et de classe 1C. Puisque dans la classe 1B, il y a une tyrosine mais qui est radicalisée, alors que la classe 1C, l'équivalent oxydant, reste sur le manganèse 4 puisqu'elle ne peut pas aller sur la phénylalanine. Et bien ici, semble-t-il, dans la classe 1D, on a un cas où on fait comme dans la classe 1C un manganèse 4 fer 3, enfin l'équivalent d'un manganèse 4, pardon, mais que ça ne transfère pas à la tyrosine. C'est assez troublant. Et donc la question se pose si cette tyrosine, enfin probablement cette tyrosine n'est pas dans le chemin de transfert de l'équivalent oxydant, à nouveau jusqu'à la cystéine 30 ou 40 angstrom plus loin. Et juste après, découverte d'une cinquième classe 1. C'est quand même assez fascinant. Où est-ce que ça va s'arrêter? Et puis pourquoi? Évidemment, là, il n'y a pas de réponse. Hein. Pourquoi? Pourquoi cette très, très grande diversité? Alors là, vous allez voir, c'est quand même un nouveau système. Et là, c'est aussi l'analyse des génomes. Donc, sur des pathogènes humains, Mycoplasma genitalum, Mycoplasma pneumoniae, Mesoplasma florum, enfin, etc., etc., Streptomyces, voilà. Eh bien, là, qu'est-ce qu'on observe? On observe... voilà, alors, ici, les séquences, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais les séquences, c'est Coli, Sapiens, Aeruginosa, enfin, ça fait partie des classes précédentes, enfin, c'est des classes 1A. Et donc, vous voyez, ici, il y a la tyrosine. Bon, dans cette nouvelle classe, il y a aussi une tyrosine. Donc, on peut penser qu'on va avoir un radical tyrosinyl, enfin, en tout cas, il y a une tyrosine qui peut peut-être ne pas être radicalisée, comme dans la classe 1D, mais il y a une tyrosine. Par contre, là, la grande différence, c'est qu'à part le premier aspartate, ici, il y a trois ligands glutamate, aspartate et aspartate. Voilà. Les ligands, donc E, qui sont transformés, enfin, ces acides aminés sont transformés en acides aminés qui sont dans la totale incapacité de complexer un ion métallique. Il reste un aspartate et les deux histidines. Mais il y a de fortes chances de penser que dans ce cas-là, il y a une très grande perte de capacité de faire un métal. Et la question, c'est est-ce que c'est une métalloprotéine, comme dans le cas de tous les systèmes qu'on a évoqués précédemment. Comme vous le voyez ici, si vous êtes en aérobiose sans NRDI, il n'y a pas d'activité. Si vous exprimez les deux protéines AR1 et AR2, il n'y a pas d'activité. Si vous exprimez les trois protéines, c'est-à-dire la flavodoxine, F et puis R1 et R2, il ne se passe rien si on n'est pas en aérobiose. Par contre, dès que vous avez les R1, R2 et NRDI en présence d'air, à ce moment-là, vous avez de l'activité. Et ce que vous voyez aussi, c'est que l'hydroxyurée, qui est un piégeur de radical, détruit l'activité. Donc, tout indique que vous avez une espèce radicalaire, et en tout cas qu'on a un système qui a je ne sais pas quel métal, mais qui crée des radicaux, enfin comme les ribonucléotides réductases, de classe 1. Sauf que les informations structurales et spectroscopiques montrent des choses très curieuses. La première, c'est que la sous-unité soi-disant métallique R2 a des propriétés spectroscopiques tout à fait uniques, qui ressemblent à rien de toutes les autres classes. C'est une protéine bleue. Son spectre UV visible montre un radical. Donc, ici, vous voyez, vous avez la classe 1A. Lorsqu'elle est active, c'est-à-dire vous avez une bande ici à 360-70 nanomètres, c'est caractéristique du binucléaire de fer, et vous avez un pic ici à 410 nanomètres qui est le radical tyrosinyl. Ça, c'est la forme active. Vous voyez que le spectre de cette nouvelle ribonucléotide réductase est très différent. Vous avez un pic ici qui est un radical organique, sauf qu'il est à 380 nanomètres, qu'il disparaît quand on met un piégeur de radical, donc c'est bien un radical, et puis par ailleurs, il y a bien un signal en RPE de type radical organique, complètement différent de la tyrosine, donc il y a un nouveau radical qui est formé, c'est pas un radical tyrosinyl, c'est autre chose, la protéine est bleue, elle a un spectre différent. Voilà. Eh bien, la structure aux rayons X qui a été obtenue de la forme active montre deux choses. Il n'y a pas de métal et la tyrosine n'est pas une tyrosine mais est une dihydroxyphénylalanine. C'est un catéchol, vous voyez. C'est-à-dire que c'est une tyrosine qui a été hydroxylée. Et là, à nouveau, on compare, vous voyez, la classe 1B, hein, vous retrouvez les deux manganèses, la tyrosine, et la nouvelle classe, celle dont je parle actuellement, qui est exprimée en anaérobiose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'aucune oxydation. On retrouve bien la tyrosine, mais pas de métal ici, et on peut le comprendre, puisqu'on a perdu déjà, enfin on a perdu 3 sur 6 acides aminés complexants, donc pas de métal. Et par contre, lorsque cette protéine est exprimée en aérobiose, c'est-à-dire en lui permettant d'être oxydée, eh bien, effectivement, on trouve non pas un radical, mais on trouve une dihydroxyalanine. Mais lorsque l'enzyme est sous la forme dihydroxyalanine non radicalisée, quand il n'y a pas de radical, elle est inactive. Donc on a voilà. Donc là, je vous montre une structure d'une protéine qui est inactive, mais qui a une dihydroxyalanine. En fait, le radical à 383 nanomètres, c'est la forme oxydée de cette dihydroxyalanine, c'est donc le radical au point, l'un ou l'autre. Donc c'est un produit d'oxydation à un électron de la dihydroxyalanine. Ce qui fait que dans cette nouvelle classe, nous nous trouvons dans une situation où, en effet, il y a une tyrosine, sauf qu'elle subit cette tyrosine une transformation qui est alors beaucoup plus lourde, puisqu'il y a une hydroxylation aromatique qui se fait, et ensuite une oxydation à un électron pour créer ce radical, et c'est lui qui, en effet, permet le transfert de radical à la cystéine. À nouveau, c'est toujours la même histoire, il faut créer ce radical sur une cystéine qui réduit le substrat. Et ce radical peut être quenché par de l'hydroxyurée, on revient en arrière, NRDI et l'oxygène et NRDI sont essentiels pour cette réaction, mais voilà, c'est une réaction à une oxydation à 3 électrons, mais qui est complexe, hein, puisqu'il faut former une liaison carbone-OH. Pardon, ici, carbone-OH. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Le premier, c'est comment on passe de la tyrosine à ce radical dopamine. Oui, c'est exactement. À travers une formation de liaison carbone-OH. Donc il faut oxyder à 3 électrons et créer une liaison carbone-OH. On ne connaît pas tous les acteurs, il n'y a pas de métal pour activer l'oxygène moléculaire, enfin c'est quand même assez dément. Voilà, quel est l'oxydant? Est-ce que c'est un superoxyde qui est un oxydant à 3 électrons? Et puis, l'autre question, c'est que, vous voyez, ce radical, il est beaucoup plus stable que le radical tyrosinyl, c'est-à-dire qu'il n'a pas le potentiel redox pour oxyder la cystéine ici. Voilà. Donc, l'autre question, c'est comment ce radical acquiert le potentiel redox pour continuer la chaîne ici. Voilà. On arrive en 2021. Vous voyez, les derniers résultats, c'est 2018-2020. On arrive à une longue liste de ribonucléotides réductases de classe 1. Répartis dans plein d'organismes divers, évidemment pour le moment sans bonne corrélation de pourquoi telle classe dans telle bactérie, pourquoi telle classe dans tel environnement conditions de croissance, etc. Bon, donc tout ça on ne sait pas. Vous voyez que au fond, la vie, le vivant a dû se trouver dans l'obligation de toute façon, dans l'obligation de faire des systèmes radicalaires. C'est la condition pour activer un ribonucléotide. Ça peut être des radicaux tyrosinyls, mais comme vous le voyez, ça peut être des radicaux DOPA, dihydroxyphénylalanine. Ça peut être activé par du fer ou du manganèse. Dans le cas de la classe 1E, on ne sait pas très bien comment. Et donc, il y a beaucoup de discussions sur le fait que... Et puis, il faut savoir que vous avez, dans un organisme donné, plusieurs ribonucléotides réductases. Évidemment, la synthèse des désoxyribonucléotides est tellement importante que... sans doute, tel ou tel organisme a considéré que c'était absolument essentiel d'en avoir plusieurs au cas où il y en a une qui ne fonctionne pas. En particulier, dans des situations de stress, une bactérie peut se trouver en limitation de fer. En situation de stress oxydant, le fer peut être aussi une source de problème. Et donc, il y a beaucoup de discussions. C'est souvent le type d'argument qui est évoqué lorsque vous avez... dans la même classe d'enzymes, des formes à manganèse ou des formes à fer. Dans certaines conditions, on a un système moins stressable lorsqu'on a du manganèse à la place du fer. Et un autre stress, ça peut être un stress de manque de métal. Et dans ce cas-là, on peut comprendre que... il y a des stratégies de développer des ribonucléotides réductases sans métal qui puissent créer des radicaux pour continuer à faire de la biosynthèse de l'ADN, bien sûr. Voilà. Un dernier mot. C'est compte tenu de la grande diversité des ribonucléotides réductases. D'un organisme à un autre avec des systèmes donc différents. La question de considérer les ribonucléotides réductases comme des cibles d'agents anticancéreux, antiviraux, antibactériens, etc., a repris du poil de la bête. Lorsqu'il y avait la classe 1A, qui d'abord ne s'appelait pas A au début, s'appelait classe 1, évidemment, il y avait l'idée que toutes les bactéries et toutes les eucaryotes avaient une classe 1. Quand sont arrivés les 2 et les 3, on a commencé à... Sauf que les 3 concernaient des bactéries anaérobes, enfin... Mais, donc, il y a eu beaucoup de recherches dans les années, entre les années 70 et 90, autour des inhibiteurs de ribonucléotide réductase ciblant la classe 1. Et puis, c'est tombé parce que, à nouveau, il y avait cette idée que c'était la même classe qui était chez tous les organismes vivants, la classe maintenant appelée 1A, et que donc, dans ces conditions, il y aurait de très très gros problèmes, enfin des trop grosses difficultés à être sélectif de, par exemple, la bactérie qui infecte l'hôte et l'hôte lui-même. Or, maintenant, les choses ont un peu changé, et ce que je peux vous dire, c'est qu'on ressent à nouveau des recherches qui se déclenchent, parce que cette diversité de ribonucléotide réductase permet d'envisager un peu mieux une plus grande sélectivité vis-à-vis de telle ou telle bactérie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste finir en balayant très vite, il me reste 5 minutes. voilà, pour vous donner actuellement la situation des molécules qui agissent sur les ribonucléotides réductase très vite. Il n'y a pas de très très grande nouveauté pour le moment, mais en gros, vous avez des analogues de substrat. Vous voyez ici la gemcitabine. Vous voyez ici, il y a 2 atomes de fluor. C'est actuellement le seul analogue de substrat nucléotide, enfin qui est donné sous forme de nucléoside, hein, bien sûr. C'est, la seule molécule qui est utilisée régulièrement en clinique. Contre tout un tas de tumeurs et de cancers, et notamment en combinaison avec le cisplatine. Alors, comme c'est des nucléosides, évidemment, ça tape un peu partout, pas que sur la ribonucléotide réductase, et il y a aussi la DNA polymérase est aussi une cible. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail des mécanismes. La deuxième approche qui a été étudiée il y a longtemps maintenant, mais qui est intéressante parce qu'elle peut être très sélective. En fait, vous voyez, l'association de la protéine R1 où il y a le substrat et la protéine R2 où il y a le métal et le radical se fait par la partie C-terminale de la protéine R2. Et cette partie C-terminale, ici, d'un organisme à l'autre, c'est des séquences totalement différentes. À partir de là, les boîtes pharmaceutiques ont imaginé des peptides ou des analogues de peptides, vous voyez, avaient la séquence de la partie C-terminale de R2 qui se fixait sur R1 et qui empêchait R2 de se fixer sur R1. Et ça a été pas mal développé pour faire des antiviraux contre l'herpès. Il s'avère que l'herpès a sa propre ribonucléotide réductase. Oui, voilà, c'est le peptide synthétique. Ici, ce peptide synthétique, quand vous prenez des cellules, c'est des cellules BHK cells, eucaryotes. Vous voyez, il n'y a pas d'inhibition par le peptide. Quand cette cellule est infectée par le virus et que vous donnez le peptide, vous avez une très forte inhibition de la prolifération, ce qui prouve que ici, c'est très sélectif de la cellule infectée et pas de la cellule non infectée. Voilà. Et puis, vous avez la troisième stratégie consiste à détruire ce radical avec des inhibiteurs, avec des piégeurs de radicaux. Le classique, je l'ai déjà évoqué, c'est l'hydroxyurée. Puis depuis très peu de temps, il y a une autre molécule qui est en développement qui s'appelle la triapine, qui est cette molécule et qui agit par piégeage de radical. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Vous voyez, il y a quand même eu une époque où on a considéré que l'histoire des ribonucléotides réductases était terminée avec les trois classes. Et puis, on n'arrête pas d'avoir des surprises. Voilà, bah, j'imagine que je l'évoque ici à l'occasion de cette très importante classe d'enzymes. Mais ceux qui travaillent dans d'autres systèmes raconteraient certainement ce même type d'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, les génomes nous révèlent une infinité de situations. Mais je crois que celle-là est particulièrement compliquée. Voilà, une telle diversité de systèmes pour faire la même réaction, je crois que ça n'a pas beaucoup d'équivalents. Voilà. Je vous remercie.